Je suis dans un magnifique décor des années folles, Art déco, avec Séverine Bard. On se rencontre finalement. Bonjour Séverine.
Bonjour.
On a eu vraiment des émulations intenses pendant 15 jours avant de se rencontrer pour parler de Greta Gratos, qui sort sur les écrans romans. Nous avons déjà eu la joie de rencontrer Pierre-André Beau, qui est donc le créateur, le démiurge de Greta Gratos. Cette diva des nuits en fait genevoise, mais surtout des thés dansants de l'usine, connue depuis bientôt 30 ans. Vous le connaissiez depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire un film consacré à cette créature vraiment exceptionnelle, aux multiples facettes?
Alors, je connais Pierre-André depuis presque 20 ans, je dirais. Un petit peu après qu'il ait créé Greta. Mais quand je l'ai rencontré pour la première fois, je ne connaissais pas l'existence encore de Greta. Donc, j'ai travaillé avec lui, comme je travaille comme chef opératrice aussi. Donc, je l'ai rencontré sur un tournage où il était acteur en tant que Pierre-André. Et moi, je faisais l'image de son court-métrage. Donc là, on s'est connus et on s'est très vite bien entendus. Et quelques temps plus tard, j'ai découvert son personnage. Et ça m'a vraiment fait surpris, vraiment, de voir ce personnage parce que je ne voyais plus du tout Pierre-André derrière. Et du coup, ça m'a beaucoup intriguée.
Interpeller
comment cette incarnation se passe, etc. Et en plus, dans mon métier de chef opératrice, c'est sûr que je rencontre évidemment plein de comédiens sur des fictions. Et même pour des rôles moins extravagants, moins délirants que Greta, c'est toujours quelque chose que je trouve assez magique. Cette petite âme qui vient se poser sur un comédien. Enfin, ce qu'il fait émaner, évidemment, c'est évidemment que ça vient du comédien lui-même. Mais
comme un révélateur.
Ça donne quand même l'impression qu'une petite âme vient se poser sur la personne, le comédien qui incarne le rôle. Bon, voilà, donc du coup, petit à petit, ça m'a donné envie de creuser cette question, d'un petit peu aller plus loin dans l'observation. Pour ça, j'ai commencé par juste observer un peu comme si je faisais un documentaire animalier, Pierre-André en train de se maquiller. Enfin, c'était vraiment très ponctuel comme ça, comme petit tournage. Donc, j'avais entre autres construit un miroir sans teint derrière lequel je posais la caméra pour être vraiment face à Greta et pas la déranger, pas déranger Pierre-André pendant qu'il se maquillait pour essayer d'attraper le moment où tout à coup Greta apparaissait, analyser comment ça se passait, comment Greta arrivait, est-ce que c'était progressivement, est-ce que c'était d'un coup, et voilà. Et là j'ai remarqué que c'était c'est vraiment d'un coup, tout à coup dans ses yeux il y a quelque chose qui s'allume, qui est de l'ordre de Greta, et tout d'un coup il n'est plus Pierre-André, pour moi, parce que c'est toujours très subjectif. Cette relation personnage, autant pour le comédien qui l'incarne que pour les gens qui sont en face, c'est vraiment très personnel. On y met aussi beaucoup, c'est l'imaginaire, donc même en tant que spectateur, on pose beaucoup de choses de soi aussi sur un personnage comme Greta, comme sur d'autres aussi. Donc voilà. Et puis après cette phase où d'observation et où j'étais un peu cachée derrière un miroir, j'ai quand même heureusement sorti ma caméra de derrière le miroir. Et puis, on est allé plus loin dans le questionnement sur le personnage, sur la question du genre, sur... voilà, on a un peu élargi. Parce que petit à petit, je me suis dit, il y a vraiment un sujet à faire autour de Greta. Ce que j'aime aussi dans le personnage, c'est qu'elle existe à cause d'une multitude de petits détails. Donc, dans le film, c'était vraiment une volonté aussi d'aller chercher les détails révélateurs de l'existence de Greta ou les détails qui la font apparaître. Donc,
les bijoux, les diadèmes, les coiffes.
Voilà, le soin aussi avec lequel Pierre-André fabrique les costumes.
Lui-même, oui, c'est
voilà,
ça.
Et donc, vraiment d'entrer dans la matière de Greta. Pour moi. Et aussi tout ce rituel qui participe de sa venue.
Pierre-André, on sait quand on connaît sa carrière, mais aussi quand on l'a connu dans l'été dansant de la grande époque alternative de Genève, il a eu d'autres personnages avant Greta, mais Greta s'est imposée. Et là, grâce à vous, on comprend pourquoi Greta s'est imposée et demeure. Elle était en gestation depuis longtemps en lui.
Alors effectivement, lui raconte ça comme ça, c'est-à-dire que pour le thé dansant, à chaque fois, il incarnait une figure, et puis tout à coup, un jour, il devait faire sorcier, il fait sorcière, et puis Greta apparaît. Donc je crois que c'est parmi les premières fois aussi où il incarne un personnage féminin. C'était pas une habitude chez lui, pas du tout. Bien qu'il y ait eu, il m'a montré aussi des photos qu'avait fait Isabelle Meister quand il était beaucoup plus jeune, où il avait... Il portait une robe, il n'était pas du tout maquillé en femme, mais disons qu'il portait une robe et il prenait des attitudes comme ça qui, si on, maintenant on regarde ses photos, laisse supposer que quelque part Greta sommeillait en lui. Mm-hmm. C'est sûr qu'il y avait comme ça des prémices. Mm-hmm. Mais disons qu'effectivement pour lui ça a été un peu la surprise vraisemblablement, tout à coup de voir ce personnage et lui et d'autres aussi,
les messagères.
Les messagères, mais aussi les spectateurs ont plébiscité le fait que Greta reste. Mmh. Et Pierre-André, dans ces cas-là, il se dit ok, il est assez intuitif, donc il se dit ok, puis il prend, puis ensuite il voit, et puis effectivement, du coup, Greta est restée, et reste toujours, et maintenant ça fait bientôt 25 ans en fait. On dit qu'elle a plus de 20 ans, mais elle a bientôt 25 ans. Mmh.
Et grâce à votre film, on réalise aussi l'importance de Greta par rapport à, disons, au militantisme, mais encore relativement modéré, mais quand même le militantisme important par rapport à la défense de la culture, par rapport au fait que la culture devient le parent pauvre, en tout cas à Genève. Et grâce à votre film, on voit que Greta est sur beaucoup de fronts, elle monte aux barricades.
Oui, c'est vrai que c'est un personnage aussi qui prend la parole pour défendre diverses causes, pas seulement évidemment les causes du genre, et en fait c'est pas du tout sa première idée, sa première préoccupation. Il les défend aussi, mais il défend aussi le fait qu'il n'y ait pas assez de moyens pour la culture, que c'est dangereux que la culture disparaisse, donc pour ça il s'exprime beaucoup. Et c'est vrai que Greta lui permet, c'est aussi des idées évidemment qu'il a lui, mais quand Greta les dit, non seulement ça a plus d'impact parce que le personnage flamboyant qu'elle est fait qu'on l'écoute peut-être différemment, et puis c'est aussi un personnage, c'est un peu comme Guignol, à travers un Guignol on peut dire aussi beaucoup plus de choses parce qu'on est quand même derrière la créature et on diffuse ce message sans être humainement porteur de ce message. Greta, de par son caractère fictif et même d'extraterrestre, vu que c'est ça qui raconte la légende, mais bien sûr elle peut se permettre d'avoir des propos peut-être qui sont plus difficiles à tenir pour un humain. Sur l'humanité, oui.
Elsa Vindard, j'imagine que ce travail d'observation un peu à la Bourdieu, comme ça, en immersion avec Greta à ses côtés et aux côtés de Pierre-André Beau, ça vous a pris des années?
Oui, ça m'a pris beaucoup de temps parce qu'au début, c'était aussi, je cherchais un petit peu le film que j'avais envie de faire. Au début, c'était vraiment un peu expérimental parce que ce que je ressentais de Greta, je me posais la question, mais comment est-ce qu'on retranscrit ça en image? Il y a plein de choses qui ne sont pas si évidentes que ça à faire sentir à travers des images, à travers un film. Mmh. C'est pas parce qu'on filme que les choses sont là. Donc au début, j'avais vraiment envie de retranscrire ce que Greta provoquait chez moi, ce que je trouvais intéressant, attirant, fabuleux, intriguant, et tout ça chez ce personnage. Et donc, dans les premières années, j'ai un peu essayé. J'étais pas persuadée du tout qu'il y avait un film à la clé. Mais disons que j'ai essayé. Et du coup, petit à petit, effectivement, j'ai commencé à comprendre ce qui pouvait révéler Greta aux autres à travers ce que je pouvais filmer. Donc, ça a pris du temps. C'était aussi du temps pour moi pour la comprendre, parce que c'est pas non plus un personnage qui se donne d'un coup. Je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup de couches comme ça. Et puis, du coup, ces années, c'était aussi une immersion pour aller au fond des choses, pour aussi avoir des discussions assez intimes avec Pierre-André. Là non plus, on ne parle pas tout de suite de choses intimes. C'est aussi à force de se côtoyer, etc. De vivre aussi des aventures avec Greta en se retrouvant, par exemple,
en Alsace.
Voilà, c'était quand même juste extraordinaire d'être là-bas avec elle.
Et le lieu semble extraordinaire aussi.
Ah oui, non, le lieu est magique. Il lui va hyper bien.
Les Dominicains de Haute-Alsace.
Exactement. Et d'ailleurs, qui ont été hyper accueillants au fait que je viens de filmer, qui sont hyper accueillants aussi par rapport au film, parce que maintenant, ils vont le programmer aussi à Guebwiller. Ils ont fait une projection de prévue très bientôt, comme ça, là-bas. Et voilà, donc aussi le simple fait d'avoir eu l'occasion de voyager avec elle dans ces différents lieux et de découvrir différentes personnes à travers elle, c'était aussi... ça donne envie aussi de poursuivre l'aventure. Donc c'est vrai que à la fois c'était l'idée de chercher justement la quintessence, la chose qui parle, qui raconte au mieux Greta, et puis aussi de se laisser le temps de vivre des moments avec elle.
Et d'aborder diverses thématiques. D'ailleurs, on voit que là, en Alsace, il y a des rencontres avec des lycéens, des collégiens, avec un échange justement autour du genre. Mmh. Et il y a d'autres thématiques qui apparaissent aussi. On parle à un moment donné de l'acceptation des parents qui ont donné toujours beaucoup d'amour. Et enfin, ça, j'imagine qu'il faut du temps pour broder ce genre de confiance et d'aller de plus en plus dans certaines confidences.
Oui, parce que c'est vrai que, enfin, après, chacun différent aussi, mais moi, en tout cas, en tant que, dans ce cas, la réalisatrice, j'ai pas envie d'agresser la personne en face et puis tout de suite de lui poser des questions ultra-intimes. Il faut que je me sente autorisée quand même à ça. Et puis ça, c'est aussi le temps passé avec lui. Donc, petit à petit, ben, je me sentais légitime pour aller plus loin dans son intimité, lui poser des questions plus intimes. Ça, c'est une chose. Après, il y a aussi, selon les situations, des manières d'aborder, ou des lieux, ou des événements qui permettaient d'aborder ces questions-là, qui étaient plus judicieuses. Il ne s'agissait pas toujours d'être en interview avec lui, mais aussi trouver la forme visuelle pour aborder ces questions-là. Et puis, oui, voilà.
Dans votre travail, là, vous mentionnez que vous êtes cette fois-ci derrière la caméra, cinéaste, vous êtes chef opératrice. Toutes les fonctions que vous remplissez vous occupent à part entière, j'imagine. Est-ce que là, vous avez eu une préférence, le fait d'être derrière la caméra, c'était une façon de vivre ça différemment ?
Bah, disons que derrière la caméra, je le suis tout le temps, on va dire, vu de par mon métier de chef opératrice.
Non, mais là, vous étiez aussi scénariste, du coup, d'une manière.
Mais là, j'étais, en plus d'être derrière la caméra, je pouvais mener le projet jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que quand on est chef opérateur, on se met au service d'un projet. Il y a une relation qui se tisse avec un réalisateur ou une réalisatrice. Mais à un moment donné, il faut aussi accepter de faire des choses et de les laisser être utilisées d'une certaine manière par le réalisateur ou la réalisatrice comme ils ont envie, quoi. Donc là, pour le coup, je pouvais aller au fond des choses aussi avec, et en filmant moi-même et en signant la réalisation du projet. À des moments, je me suis posé la question, est-ce que j'aurais dû demander à quelqu'un d'autre de faire la caméra. Mais là, en l'occurrence, je ne crois pas. Je crois que j'avais pas très envie de collaborer avec un autre caméraman. Pas que je ne fasse pas confiance à un autre caméraman, mais simplement que dans la relation et les petites choses que je cherchais, ça passait vraiment par aller scruter avec la caméra. Donc, ça était partie intégrante de la réalisation. Il y a d'autres cas où, justement, c'est très intéressant de déléguer parce que c'est une idée qu'on délègue à quelqu'un d'autre et du coup, l'idée grandit aussi à travers le fait que ça soit deux personnes qui participent à cette prise de vue. Donc, voilà. Et après, c'était aussi possible parce qu'on était beaucoup dans des situations assez intimes où il n'y avait pas non plus beaucoup de perturbations autour, mais j'ai pu quand même voir à certains moments que c'est beaucoup de faire les deux. Qu'à un moment donné, il faut résoudre. En même temps, il faut résoudre plein d'autres problèmes. Et qu'à un moment donné, ça devient trop de choses à gérer en même temps. Mais disons que c'était peut-être une ou deux séquences qui m'ont paru plus lourdes comme ça. Mais sinon, c'était.
Oui, il y avait plus de personnes ou pas forcément ?
Oui, ou bien c'était plus de personnes, mais aussi dans des lieux peut-être plus compliqués, qui étaient où j'étais moins en immersion, mais où j'essayais de faire quelque chose, et puis en même temps je devais tenir compte de l'ambiance autour, est-ce que c'est trop bruyant ou pas, ou est-ce que comment je gère la lumière qui tombe, et puis en même temps j'ai envie d'aller plus loin dans l'interview. Ça, ce genre de choses, quand on est deux, on peut vraiment se focaliser sur un des deux problèmes. Tandis que quand on est un, du coup, c'est deux questions qui viennent un peu en conflit et qui enlèvent de l'attention par rapport au sujet principal, je dirais. Donc, c'est là que je commence à me dire, ouais, c'est vrai qu'avoir des fois le caméraman, c'est bien.
Séverine Darme, j'imagine que vous avez encore beaucoup de rush, beaucoup de matériel à disposition. Vous avez dû faire une sélection ardue pour faire le montage final.
Oui, avant d'entrer en montage, en fait, j'ai fait un gros travail seul de dérochage. Généralement, on fait ce travail avec le monteur ou la monteuse, mais là, il y avait tellement de matière que je devais de toute façon trier avant. Donc, j'ai vraiment trié, fait des classements, et puis volontairement aussi renoncé à certaines séquences que j'ai mis de côté complètement en me disant. Je pense que dans la structure du film, qui avait entre-temps quand même évolué, donc j'avais une idée de base de la structure qui n'est pas hyper loin de celle qu'on a maintenant. Évidemment, ça a évolué, mais disons que sur laquelle on a pu vraiment s'appuyer pour faire le film qui existe aujourd'hui. Ouais, j'ai mis de côté certaines séquences qui n'auraient pas fonctionné. Et puis ensuite, au moment du montage, on en a encore enlevé certaines aussi qui ne prenaient pas leur place comme on l'avait imaginé non plus.
Alors, vous mentionnez en début d'interview, Séverine, que vous connaissez depuis à peu près une vingtaine d'années Pierre-André Beau. Grâce à ce film, par le truchement de ce film et tout ce que vous avez découvert au fil des mois, des années, est-ce que vous le voyez différemment ?
Alors, complètement différemment, je dirais pas, mais plus en profondeur, ça oui. C'est-à-dire que pour moi, c'est la même personne que j'ai rencontrée le premier jour et avec qui je me suis bien entendue. Je me dis pas maintenant, ah oui, en fait, il était complètement différent que cette première impression. Non, la première impression correspond à ce que je ressens encore aujourd'hui de la personnalité de Pierre-André. Par contre, c'est clair qu'il y a plein de choses que j'ai découvertes que je ne connaissais pas et qui ont complété son portrait. Entre autres, son aptitude à... Enfin, sa capacité à être multiple en art, ça, je n'avais pas supposé à quel point c'était riche. C'est clair que je savais que c'était un bon comédien. Je trouve que c'est vraiment un bon comédien, au fond.
Donc, vous irez le voir au Galpon prochainement ?
Ah, ça, c'est sûr. Non, puis j'aime beaucoup ses dessins, par exemple. Mm-hmm. Ça me fait craquer, quoi, les dessins qu'il fait. Là, il est en train de dessiner une histoire et il l'a construit en la dessinant. Et je trouve qu'il a un coup de crayon qui est juste magique, quoi. Et voilà, ça, c'est des choses qu'au départ, je ne connaissais pas. Et puis, ensuite, bien sûr, on a approfondi une amitié et du coup, une connaissance réciproque, je pense, de l'un et de l'autre, qui fait que ça a renforcé aussi les liens qu'on avait. En tout cas, ça n'a pas créé des conflits supplémentaires. Je ne pense pas qu'on ait eu vraiment de conflits, quoi. Ça a toujours été... c'est quelqu'un qui est... très facile à vivre, en fait. Très généreux de sa personne.
Effectivement, vous aussi, vous êtes généreuse dans ce que vous me racontez sur votre film. Est-ce qu'on peut parler un peu de vous et savoir comment vous êtes venue au cinéma ?
Alors, j'ai un peu grandi dedans. C'est-à-dire que mon père était réalisateur et producteur à la RTS. Et ma mère a fait du montage aussi, un temps. Elle n'a pas fait que ça, mais elle a été monteuse tout un temps. Donc c'est vrai qu'on baignait un petit peu dedans, j'ai baigné dedans quand j'étais petite, j'ai grandi à la campagne, donc j'étais soit pendant les vacances, j'étais soit à la télévision avec mon papa, soit j'étais sur le tracteur du voisin qui était fermier, donc ça aurait pu être une éventualité, fermier aussi.
Faire du fromage de chèvre et les moussons.
Non, la terre j'aime beaucoup, et puis c'est vrai que dans la famille il y a aussi cette dimension-là, parce que du côté de ma mère c'est plutôt une famille de vignerons, de paysans.
Proche du terroir.
Proche du terroir, donc la terre est importante aussi. Et puis au fur et à mesure, je dirais pas que tout de suite j'ai su ce que je voulais faire, mais c'est vrai qu'entre autres, j'avais reçu assez jeune, vers 5-6 ans, un appareil photo. Et puis si je prenais une photo, fallait en discuter. Fallait entre mon père et ma mère, on discutait de la lumière, on discutait du cadre, etc. Hein. Et c'est encore maintenant des discussions qui me restent par rapport à regarder la lumière, à regarder les ombres, à la dynamique d'un cadre. Mais ça, c'est vraiment des petites choses que j'ai déjà entendues vraiment toutes petites, quoi.
Ça vous a construite.
Je pense, ouais. Alors, sur le moment, on ne se dit pas ça dans ces termes-là. Puis, C'est petit à petit, je me rends compte maintenant que si je construis un éclairage pour un film, en fond, je reprends ces bases-là, quoi. Et les images du départ me reviennent à l'esprit. Et puis, ensuite, j'ai quand même hésité à faire... différentes choses, j'ai pas vraiment décidé tout de suite, je me suis dit tiens mais oui je vais continuer dans cette voie. Ce que je savais par contre, c'est que j'aimais bien ce qui était un peu technique aussi. La biologie m'aurait intéressée aussi. Et finalement j'ai été visiter l'IAD qui est une école de cinéma en Belgique. Au départ j'étais un peu partie pour faire du montage. Et puis en fait j'avais quand même l'idée de la caméra qui était quand même là. Et en arrivant sur place, c'était des portes ouvertes dans l'école, c'était clair, quoi. Le montage, je trouve ça juste fabuleux aussi, hein. Je trouve simplement que c'est un métier un peu solitaire. Donc c'est ça qui m'a retenue. Mais en tant que montage même, ça, je trouve que c'est aussi une part géniale du travail. Mais disons que pour pratiquer tous les jours, j'ai plus pris la direction de l'image. Et puis j'ai finalement fait cette école dans cette section-là. Et j'ai travaillé 10 ans ensuite, en sortant de l'école, comme assistante caméra sur des fictions, des documentaires, et avec différents chefs opérateurs en Suisse, en Belgique, en France.
Je vous demandais pourquoi la Belgique ? Si ce n'est qu'ils ont un bon chocolat, qu'ils sont accueillants.
Ouais, je sais pas, c'est pas le chocolat qui m'a...
La bière ?
Ouais, même pas. La bière, j'en ai jamais bu en Belgique, j'en ai bu qu'après. J'ai aimé qu'après, mais bon. Pourquoi la Belgique ? Parce que, en fait, je connaissais pas du tout la Belgique. J'avais vraiment l'impression d'aller sur la planète Mars, alors que c'est pas tellement loin. Mais...
Et qu'on a beaucoup de similitudes avec les Belges.
Peut-être. Et puis en même temps, il y avait plein de mots différents. Enfin, ça m'a... Non, j'ai choisi la Belgique parce que c'est vrai que les deux écoles qui existaient à l'époque, enfin qui existent toujours d'ailleurs, l'INSAS et l'IAD, avaient très bonne réputation. Que j'avais des amis plus âgés qui avaient essayé l'INSAS. D'ailleurs, j'ai pas essayé l'INSAS parce que comme ils avaient tous raté l'INSAS, je me suis dit, je vais pas essayer l'INSAS. C'est pas du tout une bonne raison, mais finalement, donc j'ai essayé que l'IAD. Mais voilà, je crois que c'est parti comme ça en France. Je crois qu'il fallait peut-être avoir plus d'expérience pour essayer de se présenter à Louis Lumière ou à Vaugirard ou quoi.
Sur concours.
Bon, l'IAD, c'est un concours aussi, mais il prenait des gens plus jeunes aussi, enfin plus inexpérimentés, on va dire. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Un peu. Et puis oui, aussi on avait une amie qui venait à la maison régulièrement parce que là où j'habitais, il y avait beaucoup de gens qui passaient, parfois qui venaient loger 2 mois parce qu'ils avaient un travail à Genève. Et il y a la fille Marie Stork, qui est la fille de Henri Stork, qui est donc un documentariste belge, qui est venue loger chez nous pendant un été. Et en fait, c'est vrai que j'avais déjà un peu l'idée d'essayer cette école en Belgique. Et elle m'a vraiment encouragée à le faire. Et puis m'a dit, mais si tu viens voir l'école, on vous logera, etc. Donc voilà. Donc ça a mis un petit plus aussi, parce que tout à coup, il y avait des connexions comme ça qui se faisaient.
Est-ce qu'on peut parler projet ? Là, ouais, bon, Greta Garbo sort sur les écrans romans, comme on le disait. Vous accompagnez sans doute ses sorties. Et est-ce que vous allez aussi partir en Alsace, puis il y aura la projection ?
Ah oui, l'Alsace, on va aller. Quoi. Enfin, je vais aller. Malheureusement, Greta ne peut pas m'accompagner là-bas parce qu'elle est justement au galpon. Mais oui, moi, je vais y aller. Et puis, Philippe Dolfus, qui d'ailleurs est avec nous là, ces prochains jours pour la sortie ici, vraiment était adorable de programmer cette projection. Et puis, je suis très contente aussi de pouvoir... leur rendre l'appareil en allant accompagner le film là-bas, vu l'accueil que j'ai eu pour ce tournage, quoi. Et ça me fait très plaisir aussi de revoir tout le monde, les gens qui ont participé, qui sont quand même très présents dans le film.
Donc, et le lieu semble avoir une énergie particulière.
Oui, c'est un lieu assez épatant, quoi. Mais sinon, le film, il sort aussi au Festival de Lyon. Il sort, et puis on aura certainement encore des séances dans des plus petites villes comme ça en Suisse, et puis on va essayer aussi la Suisse allemande progressivement. Peut-être il y a un festival qui s'appelle le Pink Festival à Zurich, on va essayer qu'il soit pris à ce festival, parce que ça nous ferait une petite entrée en Suisse allemande, enfin une manière d'approcher ce marché là, quoi. Après c'est possible qu'il ait pas du tout, enfin qu'il ait un accueil différent parce que voilà, c'est la Suisse, c'est toujours assez étonnant comment les films ont vraiment des carrières très différentes selon les régions linguistiques.
Par contre, Zurich a une forte vie alternative, justement.
Oui, ça c'est vrai. Donc,
un bon point.
C'est un bon point, oui, tout à fait. Non, elle peut. Elle a eu l'occasion, je crois, d'aller de temps en temps à la Rote Fabrik, Greta. Il me semble qu'elle s'est produite là-bas de temps en temps. Mais je ne pense pas qu'elle ait connu là-bas. Donc, ce serait sympathique si tout à coup elle faisait son petit trou là-bas.
Et côté projet, vous avez envie de repasser derrière la caméra comme cinéaste ?
Oui, pourquoi pas. Bon, je continue à beaucoup aimer mon métier de chef opératrice, puis ça, j'ai pas du tout envie d'arrêter. Même, je pense que cette expérience de réalisation, elle me renforce aussi dans mon travail de chef opératrice. Je sais où je suis quand je fais l'un ou l'autre, hein, donc je vais pas non plus prendre le pas sur un réalisateur ou une réalisatrice parce que moi-même j'ai réalisé. C'est vraiment deux positions complètement différentes sur un projet. Et donc, voilà, ça, de toute façon, je vais continuer, que ce soit en fiction ou en documentaire. Et puis, qui sait, ouais, peut-être trouver un projet qui me porte, qui me donne envie. Mais je pense que si je refaisais quelque chose, je continuerais à faire quelque chose sur la longueur, parce que je trouve que c'est un luxe qu'on a par rapport à, du fait que je travaille aussi comme chef opératrice à côté. Ça me permet aussi d'avoir de programmer des projets sur un long terme, ce qui n'est pas forcément le cas de tout réalisateur. Parce que ça, je trouve que ça amène autre chose par rapport à la captation du réel.
Un enrichissement.
Ouais, c'est une autre manière d'appréhender la réalité. Je dis pas que sur une courte période c'est pas bien, hein, mais ça me plaît comme ça de vraiment prendre le temps.
Merci Séverine. À tout bientôt.
À tout bientôt.